une averse sur la vie. Et tomber soudainement, elle a couru sous la pluie, laissant son livre sur le banc. Sous l'orage, il l'a mis sous son manteau et sur son porte-bagages. Dans la chambre sous les toits, s'est allongé sur le lit. On s'est glissé sous les draps. J'ai vu la nuit tomber sur Paris.
Bienvenue chez Bretonne, Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et qui décentralise les paroles. Pour cette sixième saison, rendez-vous tous les mois pour un reportage ou un entretien au micro d'Aurélie Fontaine ou Ariel Bonte. Aujourd'hui, pour ce 69e épisode de Bretonne, Breton et Féministe, nous recevons Isabelle Matamoros. Elle est historienne, spécialiste du genre au 19e siècle et autrice du « Pouvoir des lectrices », une histoire de la lecture au 19e siècle. Elle vit et travaille dans le Morbihan en Bretagne. Pour écrire cet ouvrage, l'autrice a rassemblé les mémoires et les correspondances de 64 femmes, parmi lesquelles il y a quelques Bretonnes. Dans leurs lettres et dans leurs écrits, publiés ou restés privés, elles racontent comment elles ont appris à lire, leur rapport à la lecture et parfois leur envie d'écrire, elles aussi. C'est un entretien réalisé par Ariel Bonte.
Isabelle Matamoros, comment vous en êtes arrivée à vous intéresser, vous, aux lectrices du 19e siècle et puis à leurs pratiques de lecture ?
Alors, en fait, je travaillais auparavant sur la représentation de la lecture de journal dans la peinture du 19e siècle. Donc, en fait, c'était une étude, une recherche historique pour analyser, en fait, la manière dont les peintres du 19e siècle avaient, voilà, introduit dans leur peinture cet acte moderne, hein, au 19e siècle, qui était le fait de lire le journal. Et il n'y avait pas du tout une perspective de genre dans mon approche à ce moment-là. Je ne travaillais pas du tout en histoire des femmes ou en histoire du genre. Sauf qu'il m'est apparu, en fait, assez rapidement que les peintres du 19e siècle représentaient de manière très différente la manière dont les hommes et les femmes pouvaient lire le journal. Et pour résumer en quelques mots, en fait, ils représentaient les hommes toujours en train de lire le journal à l'extérieur de chez eux, dans la rue, au café, dans les transports en commun, par exemple. Très souvent dans une situation de communication avec un autre ou plusieurs autres, donc que ce soit par exemple au café avec des amis en train de débattre autour de l'article qu'ils étaient en train de lire, alors que les peintres du 19e siècle représentaient les lectrices de journal toujours seules. Elles sont toujours représentées en train de lire seules, elles sont toujours, quasiment toujours représentées en train de lire chez elles, et donc il n'y a jamais, pour cet acte hein, aussi banal qu'était la lecture de journal, il n'y a jamais de possibilité chez elles que cela engage vers, par exemple, une situation de débat, une situation de communication autour de la lecture. Et vraiment, cette différence m'est apparue centrale dans la manière dont on pensait voilà, la lecture et la manière dont on pensait que les femmes, surtout, ça qui était intéressant, que les femmes lisaient au 19e siècle. Toujours voilà, des femmes chez elles, plongées dans leur lecture solitaire, une lecture qui n'appelait jamais finalement à un débat. C'est vrai que dans mon livre, j'ai voulu justement aller contre ces représentations, un peu contre ce stéréotype, en regardant du coup le point de vue des lectrices elles-mêmes. C'est-à-dire que je suis passée en fait des peintures, donc d'un regard extérieur et essentiellement masculin, au regard que les femmes avaient sur leur propre pratique de lecture et donc finalement le sens qu'elles donnaient à leur lecture, au fait de lire. Quand j'ai intitulé mon livre « Le pouvoir d'électrice », c'était vraiment pour signifier à quel point elles donnaient du sens au fait de lire au 19e siècle, dans un 19e siècle qui est quand même extrêmement contraignant, voire répressif envers l'émancipation féminine. Traditionnellement, même si les chiffres sont très imprécis, qu'autour de la Révolution française, environ 30% des Françaises savent lire et qu'elles sont 90% à la fin du 19e siècle. Donc vous voyez déjà, il y a vraiment un décollage hein, de l'alphabétisation féminine au 19e siècle qui se répartit effectivement de manière très inégale selon les classes sociales. De manière très schématique, hein, c'est dans la bourgeoisie et dans l'aristocratie qu'on va trouver le plus de femmes qui savent lire et ensuite qui savent aussi, pour certaines, écrire. Tandis que dans les classes ouvrières et dans les classes rurales, ce chiffre va être bien évidemment très inférieur. Et les disparités se déclinent aussi dans les manières hein, d'apprendre à lire, c'est-à-dire que dans l'aristocratie et dans la bourgeoisie, les familles vont souvent avoir les moyens financiers d'employer quelqu'un, effectivement, que ce soit une gouvernante, une bonne, une institutrice privée, voire des maîtres privés après, hein, pour pousser plus loin l'éducation, voilà, qui vont pouvoir aller hein, vraiment des rudiments, on va dire, de l'instruction que sont la lecture et l'écriture, le calcul, jusqu'à voilà, une éducation vraiment très raffinée, hein, l'apprentissage de l'histoire, des langues étrangères, un peu de science, un peu, quelques notions de philosophie. Tandis que dans les classes plus populaires, les filles, généralement, apprennent à lire ou apprennent vraiment les rudiments de la lecture dans des petites écoles qui sont extrêmement nombreuses au 19e siècle. Hein, on les connaît mal. Ce sont un peu les ancêtres de nos écoles primaires, voire maternelles, hein, quand on y va assez précocement, autour de 5 ans. Et ces petites écoles sont tenues soit par des religieuses, soit par des institutrices qui ont des compétences vraiment très inégales. Et donc, en fait, on a une diversité de situations hein, sur l'ensemble du territoire français qui fait qu'on a une alphabétisation féminine qui est déjà minoritaire et en plus très inégalitaire. On peut avoir des femmes extrêmement instruites dans la bonne société et des ouvrières ou des paysannes, soit complètement analphabètes, soit qui savent à peine déchiffrer un livre.
Qu'est-ce qui était raisonnable de lire de manière générale pour une jeune fille, une jeune femme, ou même une femme plus avancée dans sa vie? Et puis qu'est-ce qui était prohibé ou en tout cas mal vu, quoi?
Bon, on va commencer peut-être par les ouvrages qui sont prohibés. C'est peut-être plus facile parce que c'est plus facile de définir ce qu'on interdit de lire plutôt que ce qu'on va voilà, conseiller de lire. En fait, l'Église, que ce soit l'Église, les clercs, les médecins ou les moralistes, déconseillent aux femmes de lire tout ce qui pourrait exciter leur imagination, parce qu'on craint en fait après hein, qu'elles ne soient pas capables hein, de contrôler leurs sens et leurs émotions. Tous les livres qui peuvent exciter leur imagination, ça va recouvrir des choses extrêmement diverses, comme par exemple tous les ouvrages érotiques, bien évidemment, les livres qu'on appelle les livres qu'on ne lit que d'une main à l'époque de la Révolution française à peu près, donc tous les ouvrages érotiques bien sûr, mais aussi par exemple les ouvrages de médecine, dans lesquels elles pourraient trouver des détails de leur anatomie qui, justement, leur feraient découvrir leur corps. Mais ça va recouper également tous les romans, hein, tous les romans et notamment les romans d'amour, ceux dans lesquels elles pourraient trouver des exemples hein, d'histoires passionnées qu'elles pourraient voilà, investir hein, de toute leur imagination. Donc ça c'est vraiment pour les livres qui sont censés supposer, voilà, qui sont supposés exciter leur imagination. Ensuite, il y a aussi toute une catégorie de livres qui, là, n'est pas interdite, n'est pas censurée, mais qui est déconseillée, ou en tout cas, on juge que les femmes ne vont pas mettre le nez dedans. C'est le livre qu'on va supposer trop compliqué pour elles. Par exemple, les ouvrages de philosophie, les ouvrages de rhétorique, les ouvrages de théologie. Bah, parce qu'on juge tout simplement que les hommes et les femmes ont des capacités intellectuelles si différentes qui font que les femmes sont incapables hein, de comprendre ces textes et de se les approprier correctement. À l'inverse, les ouvrages qui sont autorisés ou recommandés pour les femmes, eh bien, dans la catégorie des ouvrages autorisés, on va trouver tout ce qui est bah, voilà, plutôt l'histoire littéraire, les ouvrages historiques hein, d'une manière assez générale, mais surtout les ouvrages recommandés, ça va être tous ces ouvrages moraux hein, qui proposent des histoires pour filles, donc des histoires vraiment assez caricaturales, assez schématiques, hein, qui présentent généralement des caractères opposés voilà, d'une jeune fille modèle comparée à une jeune fille un peu trop rebelle, un peu trop transgressive, et donc voilà, avec une morale hein, bien pensante à la fin. Et ça, c'est vraiment un genre littéraire qui va fleurir hein, au XIXe siècle et qui va être très recommandé, très conseillé aux jeunes filles.
Et pour les lectures interdites ou déconseillées, j'imagine que les lectrices certaines savent où se les procurer.
Oui, alors il y a différents moyens hein, d'accéder à ces livres interdits, effectivement. Alors on trouve des récits assez vivants, assez drôlatiques hein, de ces expériences de lecture cachée. Enfin, plutôt des filles vont réussir à dérober la clé de la bibliothèque paternelle, parce que bien souvent les bibliothèques, hein, que ce soit la pièce en elle-même, si c'est une pièce qui lui est consacrée, ou que ce soit un meuble, ces bibliothèques étaient fermées à clé hein, dans les familles. Justement pour préserver les jeunes filles de ces lectures. Donc voilà, on trouve des récits assez vivants, effectivement, de jeunes filles qui réussissent à dérober, à se dérober à l'attention de leurs parents et ensuite donc à rentrer, à pénétrer hein, dans cette pièce interdite et à lire en cachette des histoires absolument voilà, romanesques qui les passionnent. Ça va être au couvent aussi, par exemple, hein, pour toutes les jeunes filles de la bonne société qui passent par un temps de pensionnat ou un temps de couvent hein, autour de 14 à 16 ans. Là, voilà, on pense qu'il y avait beaucoup de livres interdits. On ne va pas aller jusqu'à des livres condamnables par la morale ou par la censure catholique, mais en tout cas des livres déconseillés, oui, on pense qu'ils circulaient assez facilement dans les couvents et dans ces pensionnats.
Comment elle pouvait émanciper la lecture au XIXe siècle?
Eh bien, la lecture, enfin, lire, c'est savoir, en fait. Le livre renferme au XIXe siècle tous les savoirs, c'est l'un des principaux vecteurs.